CFNJ présente Lanaudière aujourd'hui. Voici François Morin.
Vendredi 23 avril, une annonce attendue. Québec octroie 223 millions pour diverses mesures afin de lutter contre la violence faite aux femmes. Il y a eu conférence de presse en début d'après-midi. La vaccination obligatoire des travailleuses et travailleurs de la santé, le débat est loin d'être terminé. Un dossier d'André Giroux. La Société de développement international de Lanaudière se bat aussi contre les effets de la pandémie. Régent Turgeon a rencontré le nouveau directeur général, Jacques Fortin. La capsule Lanaudière et compagnie au cœur de la Matawinie, Isabelle Perrault adresse un clin d'œil aux précieux bénévoles. Et avant tout ça, comme d'habitude, vos nouvelles régionales avec Marianne Audet. À tout de suite.
Bulletin d'information régionale est une présentation de Pieux Vistec Lanaudière, 450-755-6543.
Bonne fin de journée. D'abord, les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Soupir de soulagement devant les annonces de Québec visant à contrer la vague de féminicides dans la province. 223 millions de dollars seront accordés pour bonifier des ressources. De cette somme, 92 millions seront accordés pour les maisons d'hébergement pour femmes. Anne-Marie Janson de la maison d'accueil La Traverse a eu la confirmation que les sommes allouées pour les ressources pour femmes allaient être distribuées rapidement.
Ça va nous permettre d'avoir plus d'intervention. Il faut mentionner aussi là, qu'il va y avoir Mme Lecourt, je crois, qui va être nommée là, pour vraiment faire le portrait puis l'analyse de nos besoins en maison d'hébergement.
Daniel Blanchette, le directeur clinique de l'organisme au cœur de l'île, ignore toujours quelle somme sera accordée aux organismes qui viennent en aide aux hommes violents.
Mais c'est comme si aujourd'hui, suite à l'annonce lancée de manière spectaculaire, on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi en violence conjugale, mais il y a très peu de détails.
Depuis le début de l'année, 10 femmes ont été tuées dans un contexte de violence conjugale. Lanaudière enregistre 24 nouvelles infections à la COVID-19. Ça porte total à 22 724 depuis le début de la pandémie. Notons que 21 808 personnes sont rétablies. On n'enregistre aucun nouveau décès, ce qui laisse le total à 507. Il y a 23 hospitalisations, dont 10 aux soins intensifs. 409 cas sont actifs. Paris-Mercier-les-Moulins en compte 189. L'Assomption 111, Montcalm 53. Joliette 26, Dautré 20, Matawinie 10. La région compte maintenant 158 cas de variants. Il y en a 144 de la souche britannique et 5 de la souche sud-africaine. La région compte maintenant 6 cas du variant du Nigeria. Nouvelle remise dans le dossier de Bruno Turcotte, 59 ans, de Terrebonne, accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe. On est toujours au stade de l'enquête préliminaire. La cause a été remise au 26 mai pour la forme. Il appert que l'accusé n'aurait pas donné les soins nécessaires à sa conjointe malade. Le 23 septembre dernier, Joanne Bilodeau avait été transportée dans un centre hospitalier de Terrebonne pour des problèmes de santé importants. Celle-ci est décédée le lendemain. À la suite des constatations du coroner, les autorités ont été interpellées. L'enquête initiale du coroner est devenue une enquête de nature criminelle. En terminant, la porte-parole en matière d'environnement pour le Bloc québécois, la députée de Repentigny, Monique Posé, est sceptique concernant les nouvelles cibles environnementales du gouvernement Trudeau. Le premier ministre voudrait réduire de 40 à 45 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. Il estime que le Canada devrait y arriver d'ici 2030. Monique Posé affirme que le Canada a souvent été un mauvais élève.
Depuis, je vous dirais, même l'accord de Kyoto, là, depuis plus de 20 ans, le Canada n'a jamais réussi à atteindre ses cibles.
Madame Posé croit que le gouvernement manque de cohérence.
Dans le budget, il a donné, il dit, on va mettre 17,6 milliards de dollars pour une relance verte. Mais le pipeline Trans Mountain, c'est 17,1 milliards de dollars. Donc, il met autant d'argent dans la relance qu'il en met pour un pipeline.
C'est ce qui complète votre bulletin d'actualité régionale à CFNJ. Pour d'autres nouvelles, vous pouvez consulter notre site web cfnj.net.
Pieux Vistec Lanaudière est en période de recrutement. Vous avez envie de joindre une équipe solide et fiable? Vous avez les compétences requises pour être installateur de pieux? N'attendez plus. Appelez au 450-755-6543. PieuxVistec.com. Suivez-nous sur Facebook.
Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Lanaudière aujourd'hui. Bon début de week-end tout le monde. Et à toi aussi, André Giraud.
Ben merci beaucoup.
C'est mérité, je pense. Donc, oui, on a eu une pas pire semaine. Et oui. Grosse annonce cet après-midi, André, 223 millions pour venir en aide à tous les efforts qui sont consentis pour contrer la violence faite aux femmes. Un gros coup de pouce.
Un pas dans la bonne direction, surtout, écoute, si on calcule les 10 féminicides là, depuis 4 mois, fallait que quelqu'un agisse en quelque part, et le gouvernement a répondu quand même, je pense, assez rapidement à l'appel. Là.
Et avec cette somme, on parle quand même d'efforts globaux de 425 millions par le gouvernement Legault depuis son arrivée. Et la ministre Geneviève Guilbeault qui indique que 92 millions serviront à deux choses principalement.
Les 92 millions de dollars qui leur sont attribués vont servir essentiellement à deux choses. La première, c'est de pouvoir améliorer l'offre de services externes des équipes qui composent ce réseau très important. Parce qu'on parle beaucoup des places, mais les intervenantes, les expertes qui forment les équipes au sein des maisons d'hébergement sont, je l'ai dit, la porte d'entrée, puis offrent toute une gamme de services aux femmes qui fuient un milieu violent et qui vivent la violence conjugale. Pas seulement les femmes qui sont en hébergement, mais également des femmes à l'externe qui sont pas nécessairement en hébergement, mais qui ont besoin de ces services.
Et il y aura d'autres annonces au cours des prochaines semaines, prochains mois. On parle entre autres, évidemment, d'aider les centres d'aide aux hommes violents. C'est quand même assez logique. Et il y a également, on va bonifier, si on veut, les possibilités d'intervention de tout ce qui vient, si on veut, combattre la violence comme telle, les corps policiers, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors ça sera à suivre. Et André, tu as fait un petit calcul rapide, là, peut-être approximatif, mais quand même, ça représente des sommes assez importantes pour les centres d'hébergement.
Oui, en fait, si on parle de gros chiffres, là, tu sais, 223 millions, mais on parle de 92 millions, comme vient de le dire la ministre, qui va directement là aux maisons d'hébergement. Ça, il faut pas oublier que c'est sur une période de 5 ans. Ça fait un peu plus d'1,1 million par maison. Et si on le calcule sur une période de 5 ans, ça fait 230 000 $ par année. Donc ça, 230 000, ça doit servir pour créer des places et créer des services externes. Et comme on sait, tout ça, ça coûte cher. Est-ce que ça va être suffisant? On va l'espérer, mais on peut pas reconnaître que c'est pas un pas dans la bonne direction. Et il y a un effort vraiment louable qui est fait de la part du gouvernement. Et il faut bien souligner que la ministre a dit, si il manque de l'argent, on pourra peut-être en ajouter en cours de route. Donc ça, c'est bon pour l'avenir.
Et on verra au cours de la semaine prochaine ou des prochaines semaines quelle sera la ventilation officielle, effectivement, par région de toutes ces sommes-là. Et en terminant, il y a le ministre Guilbeault qui avait quand même un message pour les femmes victimes de violences.
Je veux rappeler à toutes les femmes du Québec qu'il n'existe aucune contrainte actuellement, pandémie ou non, hôpitaux pleins ou non, couvre-feu ou non, il n'existe aucune contrainte qui devrait vous empêcher de fuir un milieu violent.
Et André, dans un autre ordre d'idée, il y a la fameuse polémique qui se poursuit concernant l'obligation ou non de la vaccination auprès de certaines catégories de gens, surtout œuvrant en santé, et tu t'es penché là-dessus.
Oui, ben j'ai travaillé là-dessus cette semaine. J'ai approché plusieurs organismes. On parle du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé, des services sociaux, le syndicat de l'enseignement du Lanaudière, le CEL. J'ai approché la CSN également, le Centre de santé et services sociaux de Lanaudière et aussi la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Et là, je dois m'excuser, parce que ce matin, au 8h15, j'ai dit la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec. C'est pas ça du tout. C'est la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, section Lanaudière. Et j'ai pu parler à Stéphane Cormier. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. Monsieur Cormier, est-ce que on pourrait en venir à obliger les employés de la santé, en fait ceux qui sont en contact direct avec les patients, les obliger à être vaccinés, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont carrément refusé le vaccin?
Écoutez, tu sais, puis là, je pense qu'il faut en prendre puis en laisser. Je comprends qu'il y a certains, il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner. Moi, comme président, c'est sûr que je recommande le vaccin à tous mes professionnels en soins que je représente. Ok. Un coup ça dit, tu sais, je pense pas qu'il y ait de loi qui pourrait sortir à ce niveau-là, mais Tu sais, j'ai le goût de partager quelques chiffres avec vous de quelques centres d'activité qui sont déjà énumérés là dans la dans l'arrêté ministériel 024. Exemple, dans la Naudière, à l'urgence, toutes mes professionnels en soins, pour mes infirmières de l'urgence, exemple, là, ils sont vaccinés à 84%. Pour mes pour mes infirmières aux soins intensifs, elles sont vaccinées à 83%. De toute la gang que j'ai. Fait que, tu sais, moi, je vois pas dans ma catégorie une grande difficulté à faire vacciner dans ma catégorie 1 des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Fait que, le fait de le recommander, je pense qu'il faut plus travailler sur expliquer ce que le vaccin est, éviter les ambiguïtés puis les interprétations, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent dans les médias. Moi, je pense qu'il faut travailler positivement là-dedans. Ce que je regrette, c'est qu'avec l'arrêté ministériel 024, il n'oblige pas le vaccin, mais il recommande fortement avec des actions de « si tu te fais pas vacciner, on va te dépister 3 fois semaine ». Si tu veux pas te faire dépister 3 fois semaine, on va te changer d'unité. Puis si tu veux pas changer d'unité, ils vont t'envoyer à la maison pas payer. Fait que de façon contournée, là, le gouvernement avec l'arrêté ministériel, c'est ça qu'il essaie de faire. Mais est-ce que le gouvernement pourrait nous obliger à recevoir le vaccin? Moi, j'ai jamais vu ça. Là. On a eu des vaccins contre la grippe, tout ça dans le passé, H1N1. Pis ça a jamais été d'une façon obligatoire. Là.
Non, mais je me dis, tu sais, une personne, bon, 83-84%, c'est des bons chiffres, là. Mais je me dis...
Pour ce qui est dans ma catégorie, là, c'est excellent.
Bon, mais je me dis qu'une personne qui est en contact avec des patients face à un virus comme celui avec lequel on vit, il serait normal, je pense, que 100% des personnes qui ont des contacts directs avec les patients soient vaccinées.
Là, c'est sûr que idéalement, pour tous les vaccins, il faudrait qu'on ait 100% de couverture. Mais ce que la littérature nous dit, c'est que quand on a une couverture à 70% de la population des professionnels en soins, on réussit à contrôler les épidémies, là, la pandémie, c'est-à-dire à ce niveau-là. Fait que, tu sais, le chiffre 100%, je pense qu'il serait difficile à atteindre. Mais si on y va avec des sites de 70% partout, moi, je pense qu'on va réussir à contrôler ça. Là, l'autre chose, c'est que le vaccin n'empêche pas que vous puissiez attraper le COVID. Même si vous êtes vacciné, même après 2 doses, c'est possible que vous attrapez le COVID quand même. La seule chose, c'est que il est beaucoup moins fort, vous êtes beaucoup moins malade, puis vous risquez moins l'hospitalisation. C'est ça que le vaccin fait. Ça me fait moins de pression sur le réseau de santé. Fait que, tu sais, ça l'empêche pas, mais si jamais vous l'attrapez, mais ça va être beaucoup moins fort. Fait que c'est pour ça qu'il faut y aller avec elle. C'est pour ça qu'on recommande la vaccination.
Après la pause, on vous parle de la Société de développement international de Lanaudière qui se bat aussi contre les effets de la pandémie. Restez là.
La coopérative funéraire de Saint-Jean-de-Matha fait partie d'un réseau de plus de 200 000 membres. Nous vous offrons des services de qualité dans le respect de votre budget et de vos croyances. Présent à chaque instant. 450-886-3763.
Être membre de CFNJ, c'est payant. C'est participer à des dizaines de concours réservés exclusivement aux membres de CFNJ. C'est aussi participer à la vie démocratique et associative de CFNJ, seule radio lanaudoise indépendante, entreprise d'économie sociale. Et jusqu'au 23 avril, en étant membre, courez la chance de gagner l'un des 35 ensembles duo Matanox et Savon pour plancher en format de 250 ml offert par Savon Mata. Valeur totale du concours de plus de 900 $. Nous ferons 7 gagnants par jour parmi les membres de CFNJ jusqu'au 23 avril. Savon Mata, des produits efficaces préparés et embouteillés chez nous. De plus, les produits Savon Mata contiennent des huiles essentielles, sont non irritants, biodégradables et respectueux de l'environnement. Pour devenir membre et avoir plus d'informations, allez à cfnj.net, section espace membre. Bonne chance!
Automobile Sylvain Ouellet.
Il est mobile dans le bain des toilettes.
Automobile Sylvain Ouellet.
T'es volubile, Sylvain, en tabarouette.
Automobile Sylvain Ouellet.
Automobile Sylvain Ouellet à Louisville répond aux besoins de chaque client avec grand soin depuis maintenant 26 ans. Nous savons que vous avez de grandes attentes et nous relevons le défi de répondre et de surpasser chaque fois les normes. Automobile Sylvain Ouellet, c'est plus de 150 véhicules en inventaire. Des autos, des pick-up, des VUS. Ce que vous avez en tête, on l'a. Passez voir notre inventaire à autosylvainouellet.com. Automobile Sylvain Ouellet à Louisville.
Quand vous passez dans une station-service Arnois, vous en ressortez plein d'énergie. Puis quand vous avez plein d'énergie, vous avez envie d'ouvrir trois garderies en même temps. Puis quand vous ouvrez trois garderies, vous avez besoin de faire le plein d'énergie. Fait que passez donc chez Arnois. Arnois. Le plein d'énergie.
Besoin d'un service de buanderie libre-service au cœur de Joliette? Buanderie Carole et Christian vous accueillent dans un endroit propre et sécuritaire maintenant avec service d'un gardien sur place en tout temps. Vous manquez de temps? Confiez-nous votre lessive. Nous la ramassons à votre domicile et vous la rapportons le même jour. Informez-vous au 450-753-0450. Buanderie Carole et Christian, des machines performantes adaptées à tous vos besoins. Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 19h, 497 rue de la Naudière à Joliette.
Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec.
99.1 88.9 CFNJ.
De retour à la Naudière aujourd'hui, eh bien, nouvellement arrivé à la direction générale de la Société de développement international de la Naudière, Jacques Fortin, a évidemment de nombreux défis à relever. On parle évidemment des nouvelles technologies, la productivité des entreprises qui exportent et le recrutement de la main-d'œuvre. Et c'est tout ça dans le contexte d'une pandémie qui n'en finit plus. Et notre collègue Régent Turgeon l'a rencontré.
Monsieur Fortin, on n'arrive pas à la tête de la SODIL comme ça. Parlez-moi rapidement de votre parcours professionnel.
J'ai fait une carrière en développement économique un peu partout au Québec au cours des 25 dernières années. J'ai travaillé beaucoup en région. J'ai travaillé pendant 12 ans dans la région de la ville de Montréal, comme tel, l'arrondissement La Salle. Donc, ça m'a préparé toujours au poste de directeur général. Donc, ça m'a bien préparé de ces différents postes-là à venir relever les défis qui se présentent ici dans la Naudière au niveau du développement des exportations.
Un gestionnaire de carrière qui arrive en pleine pandémie, ben justement, votre défi média à la direction générale de la SODIL?
En fait, le défi, déjà, on était en mode pandémie, en mode télétravail. Il y avait beaucoup de changements qui se sont faits au cours de la dernière année. Donc, c'est de consolider ces changements-là qui ont été apportés, ce renouveau-là qui a été amené. Et on a des projets fort intéressants qui s'en viennent et on attend la confirmation d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre de l'obtention des financements pour vraiment lancer la SODIL dans son futur.
Donc, vos objectifs à court et à moyen terme, justement, c'est d'élargir le mandat de la SODIL, réconforter ses membres à travers cette pandémie-là, puis s'assurer qu'il y en ait encore qui soient en action après la pandémie?
Oui, en fait, notre mandat ne change pas. C'est celui d'aider les entreprises au niveau du développement des marchés à l'exportation. Mais les marchés changent. Il y a deux grands facteurs, parce qu'il n'y a pas seulement le facteur pandémie. Le facteur pandémie nous a montré de l'importance de la numérisation dans nos vies, l'impact que ça peut avoir. Mais ça, c'est le premier balbutiement, parce que les technologies sont tellement puissantes, tout ce qui s'en vient. Quand l'Internet des objets va se mettre à se déployer vraiment, ça va entraîner un enchaînement de conséquences technologiques qui vont changer complètement nos façons de faire au niveau des entreprises. Donc, nous, en développement des marchés internationaux, faut tenir compte aussi de cet élément-là et faut intégrer aussi dans nos pratiques des éléments d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies. Donc, mon défi, à court terme, c'est d'identifier ces technologies-là et de commencer leur implantation.
Et l'implantation de ces technologies-là va sûrement jouer dans la compétitivité de nos entreprises québécoises et lanaudoises qui transigent sur les marchés internationaux.
C'est un défi pan-canadien. Mais un grand défi québécois aussi, celui de la productivité, puis c'est pas le, je suis pas le premier à en parler, hein, ça fait des années et des années qu'on en parle. Au défi de la productivité s'ajoute le défi de la main-d'œuvre, actuellement de la disponibilité de main-d'œuvre. Dans les deux cas, la technologie est une réponse partielle, pas complète, mais une bonne partie de cette réponse-là. Donc, il faut accompagner nos entreprises. Tous les intervenants de développement économique, en fait, sont dans cet engouement-là, dans cette ligne-là, d'aider les entreprises à prendre le virage numérique pour demeurer compétitives et l'aide davantage, améliorer leur compétitivité, surtout sur les marchés internationaux.
La pandémie n'est pas finie. Vous êtes optimiste pour la suite des choses?
Oui, relativement. Je suis quelqu'un qui essaie de demeurer réaliste. La pandémie va avoir changé des choses. Elle a des impacts importants. On a adopté certains comportements qui font pas de sens au plan environnemental. On est en situation de crise, La guerre, c'est la guerre. La pandémie, c'est la pandémie. Il y a certaines habitudes qu'on a prises en termes de consommation, entre autres, qu'on va devoir revoir. Parce que ça tiendra pas la route au plan environnemental. Le défi environnemental est un des plus grands défis qui nous pend au bout du nez comme société, comme humanité. Puis on en fait partie. Donc ça aussi, c'est un des défis dont on devra tenir compte. Puis là encore, la technologie est une bonne source de solutions.
À la direction générale de la CEDIL pour longtemps encore, M. Fortin, vous venez à peine d'arriver, pourtant.
Oui, dans ma vie, j'ai fonctionné à date par phase de 5 ans, donc au moins pour 5 ans, puis on relèvera la tête dans 5 ans pour voir si on continue ou si on va se voir à autre chose.
Et André, tu me confies hors d'onde que ton agenda de la semaine prochaine est assez bien garni. Merci.
Oui, effectivement. Ben écoute, on a eu l'occasion de parler avec deux personnes qui ont été nommées bénévoles de l'année de la ville de Joliette, et dont l'un est René Saint-Jacques. René Saint-Jacques qui a été conseiller de la ville de Joliette pendant plusieurs années, avec lequel j'ai réalisé beaucoup d'entrevues, donc que je connais bien. Il est bénévole pour la bibliothèque Rina Lanier avec son épouse, Madame Hélène Carroll. On leur a parlé. Il y a aussi le maire de Saint-Jean-de-Mata qui a des bonnes nouvelles de ce temps-là. Dieu sait qu'on en a besoin de bonnes nouvelles. Et puis, on veut faire le suivi également sur la sortie 118 de l'autoroute 40, là, avec le ministère des Transports. Il y a des gros travaux qui se font dans ce coin-là. Il y a l'échéancier qui a été modifié à quelques reprises. Donc, on veut savoir ce qui va arriver exactement avec la halte routière.
Voilà. Oui, la fameuse halte du point du jour.
Voilà.
Hey, merci, André, de ta collaboration cette semaine. Bon week-end.
Bon week-end.
Merci aussi à Marianne Audet et à Régent Turgeon, bien sûr, à vous d'avoir été là. La capsule, Lanaudière et compagnie au cœur de la Matawinie, Isabelle Perrault, qui rend hommage aux bénévoles. Bon week-end tout le monde et on se donne rendez-vous lundi matin dans Bonjour Lanaudière.